et je vais essayer un peu de vous raconter assez rapidement ce qui s'est passé. À l'occasion d'une de mes interventions de délégué pour trois camarades qui avaient été sanctionnés, étant donné qu'il y avait eu mensonge d'un ingénieur, j'ai dit qu'il y avait eu mensonge d'un ingénieur, étant donné qu'il y avait eu mouchardage d'un agent de maîtrise, j'ai dit qu'il y avait eu mouchardage d'un agent de maîtrise, pourquoi ne pas dire la vérité?
Bien sûr.
Mais
ça a joué de mauvais tour.
L'employeur, à partir de là, a demandé mon licenciement. Et il m'a convoqué à un entretien préalable au licenciement à 22h, à l'heure des brigands. Je ne sais pas pourquoi 22h. Mais enfin, il était 22h. Il m'a donc convoqué pour l'entretien préalable au licenciement. Il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il me licenciait, il allait demander mon licenciement. Je ne pouvais plus rester là, j'avais bafoué la maîtrise. Et puis ensuite, comme j'étais délégué, il a fallu passer par le comité d'entreprise qui a rejeté ce licenciement, bien entendu. Et l'inspecteur du travail, qui avait aussi à donner son avis, a refusé également le licenciement.
Mais on peut penser que ce projet de licenciement avait dû soulever l'indignation de tes camarades dans l'entreprise.
Ah oui, les copains étaient écœurés. La maîtrise elle-même que l'employeur disait avoir été bafoué, a signé une pétition où pratiquement ils ont tous signé pour dire que ce licenciement aurait été un scandale.
Oui.
Et à l'occasion de l'entretien préalable et à l'occasion des comités d'entreprise extraordinaires où on devait débattre de ce licenciement,
oui,
l'usine était pratiquement arrêtée. Alors l'employeur, voyant que ce licenciement était refusé par l'inspecteur du travail, s'est dit, tiens, je vais trouver un stratagème. Et le stratagème qu'il a trouvé, c'était une mutation à 50 km de l'endroit où se situe l'usine, et dans un entrepôt où travaillent 6 personnes. Bon, il se disait, il ne nous emmerdera plus. À l'usine de Feuchy, il y a 387 personnes. Muter un délégué là où il y a 6 personnes, c'est vraiment l'empêcher de...
C'est une bonne affaire.
Oui, c'était une bonne affaire, oui, pour lui. J'ai refusé cette mutation en disant que... Et alors nous étions en avril 80, là. J'ai refusé cette mutation en disant que... Elle modifiait substantiellement mon contrat de travail, qu'elle m'empêchait d'exercer mon mandat de délégué, et que j'avais des responsabilités sur Arras, au plan syndical et social, et que j'entendais assumer ces responsabilités.
Oui.
Refusant cette mutation, l'employeur en a pris prétexte pour me licencier à nouveau, demander à nouveau mon licenciement. Du coup, à nouveau, à 22h le soir, entretien préalable au licenciement. Et puis c'était reparti pour un tour, le CE s'est réuni, il a refusé le licenciement, et l'inspecteur du travail s'est dit à nouveau, a encore refusé le licenciement. Mais comme mon employeur, c'est un homme d'un âge mûr, il a 72 ans, mais qui ne désarme pas, il a fait un recours au ministre. Mais je l'ai beaucoup plus parce que dans la CE, on y ose pour lui. Et j'avais repéré qu'il y avait pas mal de contre-vérités dans ces CE et il nous fallait avoir quelques précisions. Et il aurait préféré que je me taise ou que je lui parle des chiottes ou des trucs comme ça.
Oui, alors ces précisions, tu les as données clairement.
Oui, et donc je l'ennuyais beaucoup. Alors cet employeur s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver maintenant ? Et voilà que la section engrais de l'entreprise a eu quelques problèmes voulus, sans doute. Le 1er décembre, les engrais ont commencé à chômer. Et l'employeur savait pertinemment que ce secteur allait arrêter. Et il s'est dit, pourquoi ne muterai-je pas dans ce secteur qui va fermer, ce délégué dont j'ai tant de mal à me débarrasser? Et il s'est fait ceci, j'ai été muté dans le secteur des engrais à la fin octobre.
Oui.
Et au 1er décembre, le secteur engrais a été mis en chômage partiel,
oui.
Puis chômage total partiel, et puis enfin fermeture de l'atelier.
Oui.
Alors, où j'en suis actuellement? Eh bien, je suis pris dans un licenciement collectif pour motif économique, mais comme je suis délégué, il a fallu que mon licenciement passe par le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail. Le comité d'entreprise a rejeté le licenciement, mais cette fois, l'inspecteur du travail qui a retenu les motifs, économique a accepté le licenciement. Alors bien, nous sommes partis pour le recours au ministre, mais cette fois c'est nous, syndicats, qui le formulons.
Mais il y a beaucoup de camarades qui sont touchés par la même mesure de licenciement.
Oui. Alors j'en reviens un peu, parce qu'on a parlé de mon problème personnel, mais
oui.
Le problème qui touche le
changement,
c'est un problème qui touche beaucoup de monde.
Oui.
Voilà ce qui se passe. La compagnie financière de Paris et des Pays-Bas a deux filiales qui s'appellent COFAS et SECA. COFAS fait de l'engrais et COFAS fait faire de l'engrais à la SECA. Un beau jour, COFAS décide d'arrêter de faire faire des engrais par la SECA. Du coup, l'atelier des engrais de Feuchy, qui travaille à façon pour la COFAS, a fermé ses portes. Et coup de l'opération, dans l'immédiat, il y a eu 53 personnes en chômage, et avec les incidences que cela a sur les gens de l'entretien, les administratifs, etc., le coût de l'opération, 119 suppressions d'emplois. Parce qu'il faut bien se dire que la direction a profité de ce problème pour en rajouter dans le sac des licenciés.
Naturellement, oui.
Alors, qu'est-ce que disent les... Je m'excuse.
Actuellement,
là.
Oui.
Vas-y, oui. Les copains qui ont été mis au chômage le 1er décembre et qui sont depuis, et qui vont être licenciés maintenant, sont écœurés. Voilà des gens qui font de l'engrais pour certains depuis une quarantaine d'années. Ce sont des gens qui connaissaient leur atelier par cœur. Ce sont des gens qui arrivaient dans l'atelier, ils reconnaissaient le moindre bruit, la moindre odeur anormale, la chose qui n'était pas en place. Ils savaient faire l'engrais et ils savaient bien le faire. Ils l'ont fait du matin, de l'après-midi, de nuit, dimanche et les fêtes. Alors ces gens-là se disent, mais cet atelier, à qui il appartient? Il appartient pas seulement à l'employeur. L'employeur, il était peut-être là dans la journée, mais qu'est-ce qu'il faisait marcher à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année? C'était bien nous. Alors, on nous charge de cet atelier, mais... et l'argent qui a été amassé grâce à nous, on nous a payé peut-être, mais insuffisamment par rapport à ce que ça rapportait. Alors ce capital, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà les questions que se posent les gens qui aujourd'hui sont licenciés.
Toujours en rapport avec ce licenciement qui te frappe, toi Raymond personnellement, mais qui frappe également les camarades qui sont touchés par ces mesures de licenciement. Est-ce que tu peux nous dire comment a été ressentie dans l'entreprise de la SECA la victoire de la gauche le 10 mai?
La victoire du 10 mai, dans l'entreprise, elle n'a pas plu à certains, je l'ai vu à leur tête. Mais c'était ceux qui nous licenciaient. Bon. Pour les autres, il y en a pas mal qui ont savouré cette victoire individuellement, seuls chez eux, parce qu'ils sont, comme je te le disais, en chômage depuis le 1er décembre, donc dispersés.
Oui.
Et puis il y a ceux qui sont encore dans l'entreprise, j'ai vu ce jour-là des regards radieux et des regards pleins d'espoir. Ces gens espèrent que les licenciements de leurs camarades seront suspendus. D'ailleurs, nous avons fait aujourd'hui les deux organisations syndicales, CGT et CFDT, nous avons fait une lettre au ministre pour lui demander de suspendre les licenciements parce que... je ne m'étends pas sur la procédure, mais il y a eu des anomalies dans la procédure de licenciement. Notre employeur était très très pressé d'en finir avec nous. Et je pense qu'il était pressé d'en finir parce qu'il aurait souhaité que tout soit bien terminé pour le 10 mai. Donc il a raccourci les délais. Alors ça, nous le disons au ministre du Travail. Ensuite, nous le disons au ministre du Travail d'autres... Nous donnons aussi d'autres éléments au ministre du Travail. J'ai dit que si les engrais à Feuchy arrêtaient parce que la COFAS dénonçait son contrat, le contrat qu'elle avait avec la CECA, je dois vous dire aussi que COFAS et CECA, c'est le même PDG, que COFAS et CECA, c'est la même direction de personnel. Alors, l'un ne sait pas ce que fait l'autre, la main droite ignorerait ce que fait la main gauche, ça m'étonnerait.
Oui, tout ça n'est pas très clair. Eh bien, Raymond, si tu veux bien, on va maintenant passer un peu de musique et nous reprendrons l'interview tout à l'heure si tu as encore des détails à nous donner. Merci Raymond Hatt.
Oui, un morceau du disque de Ray Cooder, Paradise of Lunch. Ça s'appelle Theme... C'est dur à dire, hein. Theme Solid.
Oh, c'est bien.
On a des petits problèmes techniques, alors c'est pas Ray Cooder qu'on va vous passer, mais c'est Orange Mécanique.
On voit que c'est le numéro 0. Alors...
Je crois que ça va maintenant, nos problèmes techniques sont à peu près terminés, alors on va pouvoir passer Ray Cooder. Mais avant je voudrais, on aimerait bien savoir qui nous écoute, si vous avez trouvé l'émission intéressante, d'où vous êtes. Alors si vous voulez, vous pouvez téléphoner au 58 53 30. 58 53 30. Ça serait bien. Maintenant, Ray Cooder.
Une précision encore, en fait, c'est pas une autre.
votre numéro, c'est le numéro d'une... C'est un standard, donc c'est pas nous que vous aurez.
La personne transmettra.
Oui, mais la personne nous transmettra le, les messages.
Mary and the baby, laying in the bed, think about the money that I ain't made. So stand from upside, well, it won't come down. Stand from upside, well, so it won't come down.
Alors nous continuons sur Radio Provisoire Arras, l'interview de Raymond Hatz. Et Raymond, nous allons conclure si tu veux bien. C'est-à-dire, quelle en est la situation aujourd'hui et comment va déboucher le conflit à la CECA de Feuchy?
Pendant tout le temps où se déroulait le conflit, à chaque étape importante, les gens ont été mobilisés. Et on les a retrouvés ensemble, chômeurs et non-chômeurs, pour dire non au licenciement.
Oui.
Aujourd'hui, les lettres de licenciement arrivent. Les travailleurs sont écœurés. Mais ils ont l'espoir que quelque chose pourra être fait pour suspendre ces licenciements. D'autre part, ils savent reconnaître que s'ils n'avaient pas lutté ensemble, ils auraient encore dégusté plus.
Donc les luttes ont été vraiment primordiales dans...
Oui, et ils comptent aujourd'hui sur le gouvernement qu'on vient d'élire, non pas pour tout faire et sans que nous on ne fasse plus rien, mais ils comptent sur lui pour que les délégués qu'ils élisent dans leur entreprise puissent faire vraiment leur travail et soient respectés. Que l'employeur n'ait pas droit de vie ou de mort, droit de vie et de mort sur ces gens-là. Et ils y comptent beaucoup. Ensuite, ils espèrent sur une meilleure information qui serait donnée au comité d'entreprise, parce que l'entreprise, la direction de la CECA savait depuis 75 ou 76 qu'un coup se préparait pour la fermeture des engrais, mais ça, les travailleurs et leurs représentants, c'est eux, l'ignoraient complètement. Ensuite, ce sont les banques qui décident, qui ont décidé. La compagnie financière des paris des PIA, elle a dû estimer que Feuchy, ce n'était pas assez juteux. Et on ne s'est pas beaucoup occupé des hommes qui étaient là et qui perdaient leur emploi et qui ne sauraient pas où aller à 50 et plus. Alors, on espère que les décisions aujourd'hui, les travailleurs seront aussi présents pour dire leur mot.
Eh bien, Raymond Hatz, nous te remercions pour toutes ces précisions. Je rappelle que tu es délégué du personnel à la CECA de Feuchy et militant syndical bien connu dans la région d'Arras. Merci.
Schnuckenack Reinhard Quintet, c'est un morceau qui s'appelle Gary Gary.
Vous êtes sur 100,3 MHz et vous écoutez Radio Provisoire, émission numéro 0. Si l'émission vous intéresse, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, Radio Provisoire, Christian Lejeune, 5 rue du Fer à Cheval, à Arras. Vous pouvez aussi venir à notre réunion le lundi 22 juin à 20h30, petite salle des concerts. Radio Provisoire, émission numéro 0. Mais on a encore un problème technique, alors j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un numéro de téléphone auquel vous pouvez téléphoner. C'est le 58 53 30 et c'est un standard, mais on nous transmettra vos messages. On espère bien savoir si vous avez apprécié l'émission, ce que vous en avez pensé et puis d'où vous nous écoutez. Merci. Maintenant, Christian, coordinateur des renvoyeurs de livrets militaires sur la région, va nous parler. C'est Christian Lejeune. Bonjour Christian.
Bonjour.
Ça va?
Pas mal.
Voilà.
Bon, ben, j'ai d'abord un petit communiqué à passer. C'est tout à fait indépendant de nous, hein, du travail qu'on fait. Vous allez bientôt voir apparaître sur les murs d'Arras un journal mural qui aura pour nom l'affiche. Ce journal mural comportera toutes les dates de spectacles, animations sportives et culturelles, ainsi que tous les articles et les lettres que vous communiquerez à l'équipe qui se charge de le réaliser. Le premier journal mural doit paraître entre le 17 et le 20 juin. Il sera en vente au prix de 1 franc le samedi matin, sur le marché et l'après-midi dans les rues piétonnes. L'équipe qu'il réalise attend aussi que d'autres personnes la rejoignent pour permettre une parution régulière de ce journal. Alors vous pouvez vous appeler au numéro de téléphone suivant, c'est le 58 47 28. 58 47 28. Voilà.
Ouais. Maintenant tu peux préciser ce que c'est un renvoyeur de livret, c'est quoi?
Bon, un renvoyeur de livret, c'est un renvoyeur de livret militaire, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, renvoie son livret militaire à la au ministère de la Défense. Alors le fait de renvoyer, c'est un acte de désobéissance civile qui qui veut dire qu'on se trouve en désaccord avec la politique gouvernementale menée en matière de défense. Alors ce que ça implique, c'est que la plupart des renvoyeurs passent ensuite en procès. Les risques, ils vont de la relaxe à 4 ou 5 ans de retrait de droit civique, ce qui veut dire pour les fonctionnaires le fait d'être licencié. Donc c'est le cas d'interdiction professionnelle. Jusque maintenant, il y en a déjà eu 5 ou 6. Mmh.
Et il y a eu des sanctions prises contre eux?
Bah oui, le fait qu'ils soient vidés de leur boulot, quoi.
Par exemple. Et le comité de résistance à la militarisation, est-ce qu'il a mené des actions concernant les renvoyeurs de livrets militaires?
Bah, le comité, il s'est créé après la lutte qui a été menée en soutien à Jean-Luc Dupuis, qui était lui-même un renvoyeur de livrets. Et tout au long de la lutte, on s'est rendu compte que le problème des renvois de livret n'était pas indépendant du reste, et qu'une fois l'affaire de Jean-Luc réglée, le problème restait entier, c'est-à-dire qu'en soutien à Jean-Luc, il y avait eu des gens qui avaient renvoyé eux-mêmes leurs livrets, donc il faudrait continuer à les soutenir, c'est ce qu'on a fait ensuite, et qu'indépendamment des livrets, il y avait une politique de défense qui était menée, une politique impérialiste, des trucs comme ça, donc on avait des choses à faire. Donc on a décidé de créer le comité résistance à la militarisation, qui a notamment cette année soutenu 4 renvoyeurs qui avaient soutenu eux-mêmes Jean-Luc. C'est Alain Crépin, Bernard Quénu, Michel Carré, et dernièrement Philippe Sauty, qui est passé à Valenciennes, et qui est passé à Valenciennes juste avant le premier tour des présidentielles. Les délibérés ont été reportés à 15 jours plus tard, ce qui fait qu'après la victoire de Mitterrand, on a appris que Philippe avait été relaxé. C'était la première fois qu'il y avait une relaxe dans la région, donc on pense que c'est pas du tout indépendant.
Oui. Justement, à propos de la victoire de Mitterrand, Jeannot voudrait te poser une question.
Oui, tu as un peu parlé des renvois de livrets militaires. Il y a d'autres actions sur l'armée qui ont été menées dans la période précédente, comme les luttes des objecteurs, les luttes de soldats, etc. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une nouvelle donne du fait que Mitterrand a été élu. Alors, est-ce que tu peux un peu préciser quelles sont les premières mesures qu'a pu prendre Mitterrand ou le gouvernement Mauroy en ce qui concerne l'armée, indiquer si on peut... s'estimer satisfait en tant que gens qui luttent sur le terrain de l'armée, et qu'est-ce que ça peut changer au niveau des luttes qui sont à mener maintenant?
Oui, bon, ben on peut vite fait repréciser quelles ont été les premières initiatives du gouvernement Mitterrand-Mauroy. La première qui a été très bien diffusée dans la presse, c'est l'abandon du projet de camp d'extension du Larzac. Bon, ça a été ressenti par tout le monde comme une bonne chose, comme une victoire. Les paysans eux-mêmes ont dit que c'était très bien comme ça, ils ont fêté ça avec le champagne. Les paysans ont aussi reconnu que c'était logique que le gouvernement Mitterrand prenne cette décision-là, dans la mesure où, même s'ils n'avaient pas été entendus pendant 10 ans, durant leur lutte, qu'une des premières mesures d'un gouvernement de gauche devait être de donner satisfaction aux gens qui luttent depuis si longtemps.
Oui, justement, avant que tu donnes les autres mesures qu'a pris Mitterrand depuis depuis donc qu'il est en fonction à la présidence, justement à propos de la lutte des paysans du Larzac qui a donc gagné. Est-ce que tu peux justement préciser comment maintenant les paysans du Larzac pensent pouvoir continuer à faire quelque chose, enfin s'ils en ont l'intention, est-ce qu'ils ont un minimum de projets? Bon, il semble qu'il y ait des rencontres internationales cet été pour la paix. Est-ce que tu peux en parler?
Oui, je peux en dire deux mots, dans la mesure où j'ai pas les toutes dernières nouvelles des paysans depuis l'annonce officielle de l'arrêt de l'extension du camp. Tout ce qu'on peut dire, c'est que avant le 10 mai, il y avait un projet de rassemblement sur le Larzac cet été qui se veut assez différent de ceux qui ont eu lieu les années précédentes. C'est-à-dire que ce ne sera pas un rassemblement qui durera une journée, qui sera un rassemblement spectaculaire avec beaucoup de vedettes et tout ça, mais ça sera plus un rassemblement de débats, de réflexions, car il dure une semaine. Alors ce qu'on peut dire sur ce rassemblement-là, c'est que, indépendamment de la victoire de Mitterrand, il aura lieu. Est-ce que je crois qu'on peut annoncer sans risquer de se tromper, c'est que vu la non-extension du camp, on peut maintenant penser que le Larzac ne va pas se replier sur lui-même, mais servir à impulser des nouvelles luttes, à faire le point sur l'état de la militarisation de la société et des luttes qui existent un peu partout. Et un des aspects justement du rassemblement de cet été, c'est d'être un rassemblement international. C'est-à-dire qu'il y aura des mouvements en lutte de tous les pays qui viendront et qui expliqueront un petit peu où on en est, notamment par rapport au risque de guerre et à ce genre de choses.
Bon, est-ce que tu peux continuer sur les mesures déjà prises par Mitterrand en ce qui concerne l'armée ou par le ministre Ferdu?
Oui, ben, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. La première, c'est celle qui avait été annoncé quelques jours après la victoire de Mitterrand, c'est l'arrêt des essais nucléaires dans le Pacifique. Bon, la première impression qu'on a eue, c'était un grand soulagement, tout le monde était content. Les peuples polynésiens, australiens se battaient depuis suffisamment longtemps pour pouvoir penser qu'un gouvernement de gauche leur donnerait satisfaction. Et puis, d'un seul coup, 4 jours après, la bombe, on s'aperçoit que en fait, les essais nucléaires reprennent parce que, soi-disant, RNU a eu le temps de consulter les dossiers. Bon, ce qui semble clairement, c'est qu'il y a eu suffisamment de poids des états-majors militaires pour passer par-dessus les décisions que le gouvernement voulait prendre lui-même.
On sait qu'au niveau des casernes, le soir du 10 mai, il y a eu aussi un sentiment assez fort de grande bouffée d'air pur prise par les soldats. Maintenant, est-ce qu'on peut penser qu'à l'intérieur des casernes, il va y avoir un peu de changement? Est-ce que les premières mesures, justement, vont dans ce sens de changement et de liberté nouvelle qui soit donnée donc, pour les soldats?
Bon, à ce niveau-là, il y a un flou qui règne, dans la mesure où, déjà, sur la durée du service, ça semble pas clair. Il y a certaines personnes du PF qui avaient l'air de parler d'une réduction du service à 6 mois. Il y en a d'autres qui parlent d'un service étalé sur plusieurs années avec des périodes de temps en temps. Bon, au niveau de la structure elle-même du service militaire, il n'y a pas de précision très claire. Ce qui, par contre, est clair à ce niveau-là, c'est que au niveau de la façon dont les bidas sont considérés, il risque d'y avoir peu de changements. Une des premières conférences de presse qu'a fait RNU a été de dire que en matière de comité de soldats, il n'y aurait que peu de changements par rapport à la politique que menait son ministre prédécesseur.
C'est-à-dire
que jusque maintenant, ça a toujours été la répression systématique, les jours d'arrêt de rigueur, la prison et la répression.
C'est-à-dire que apparemment, bon, ce qu'a accordé RNU, c'est la liberté pour les soldats de lire l'ensemble des journaux,
c'est
puisque
ça.
Jusque maintenant, il y avait une série de journaux en général d'extrême gauche ou antimilitaristes. qui était interdit à l'intérieur des casernes. Donc la mesure a été d'accorder le droit de lecture pour tous les soldats. Maintenant, il n'y a donc aucune satisfaction au niveau des revendications sur liberté d'expression, de réunion et d'organisation au sein des casernes.
Non, à ce niveau-là, il semble qu'il n'y ait eu aucun changement fondamental. Ce qui reste à voir, c'est comment les soldats vont maintenant réagir par rapport à ça. Avant le 10 mai, il y avait un moyen d'action qui semblait intéressant. C'était une initiative qui avait été prise notamment par la Ligue des droits de l'homme. C'était le principe de que chaque soldat envoyait au siège de la Ligue des droits de l'homme une carte postale se battant sur transport gratuit, liberté d'expression, de réunion et d'organisation au sein des casernes, et que la Ligue des droits de l'homme collecterait ces cartes et les rendrait publiques au fur et à mesure que les soldats seraient libérés pour ne pas qu'ils aient de problème ensuite. Alors bon, cette action-là, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête maintenant dans la mesure où les revendications qui sont sur cette carte postale restent toujours valables dans la mesure où le gouvernement les a pas encore acceptées.
Oui, dans la pétition, enfin l'opération carte postale menée par l'initiative de l'ensemble des courants antimilitaristes et démocratiques, il y avait une des revendications qui était les transports gratuits. Charles Hernu avait indiqué qu'il donnait deux transports gratuits, je crois, pour les futures élections. Alors, on a eu quelques témoignages sur comment, en fait, la hiérarchie militaire a complètement récupéré cette mesure en accordant cette permission avec des transports gratuits qu'aux soldats qui acceptaient de voir leur permission en fait réduite à simplement 24 heures. Ce qui fait que c'était soit une permission longue comme elle était prévue, mais sans transport gratuit, soit, ou alors c'était pour voter, mais à ce moment-là c'était une permission de 24 heures, et beaucoup de soldats évidemment ont fait le choix de ne pas prendre une permission si courte, bien que les transports soient gratuits. Alors, pour conclure, est-ce que tu peux donner quelques indications sur les rencontres internationales, les dates ?
Les dates, je ne les sais pas par cœur, j'ai pas amené mes papiers. Ça doit être du 17 août au 23 août.
Bien. Alors, nous allons passer un peu de musique. Notre programme musical est un petit peu restreint par le fait qu'il y a des problèmes avec la platine. Donc on est réduit à passer des cassettes que l'on n'avait pas tellement préparées.
Enfin, s'il y a des gens qui peuvent apporter des cassettes toutes prêtes, on peut continuer, quoi.
Muna binenga ya yenzande boyo
sande boyo
atoku muna binenga ya yenzande boyo
sande boyo
atoku muna binenga ya yenzande boyo
sande boyo
atoku muna binenga ya yenzande boyo
sande boyo sande boyo.
Ya, yeah, ya, yeah. Mama, be the guy, bilenga ya go sandu boyo akuna bilenga ma sandu boyo
akuna bilenga ya sandu boyo
me semble remarcher. Voici Public Image Limited, Socialist. Thank you.
Thank you.